Déjà, je remercie beaucoup Franck, parce qu'il a dit tout à l'heure que ça avait duré combien de temps là ? Il y avait 3 prédications, ça avait duré presque 3 heures. Bon, mais parfait. Donc moi, je suis rassuré en fait, là, tout d'un coup. Parce qu'en fait, pour expliquer rapidement, en fait, j'ai su que je devais prêcher ce dimanche, plus ou moins la semaine dernière. Donc pour moi, c'est toujours un peu juste, hein. Il faut quand même plus de temps. Et alors, j'ai dit, je vais réutiliser une étude que j'avais faite au groupe de jeunes. Et au groupe de jeunes, on avait que 3 chapitres, de 3 ou 4 chapitres d'un Samuel. Je me suis dit, alors, si je fais ça, bon, mais ça va durer que 3 heures. Donc je me suis dit, c'est bon, mais je ne sais pas si au bout d'un moment, les gens vont partir un après l'autre sans rien dire. Donc j'ai dit, bon, on va être raisonnable. Je ne vais faire qu'un passage, qu'un chapitre. Alors, on verra qu'aujourd'hui, on peut être enseigné par... C'est un peu un message qui est la moitié d'un, en fait. Hein. Donc, en fait, on peut être enseigné par des mauvais exemples. Voilà. Donc, ce matin, on va être enseigné par un mauvais exemple. Alors, enseigné à ne pas faire. Parfois, on est souvent enseigné dans nos églises à faire quelque chose. Eh bien, ce matin, on va essayer de réfléchir à ce qu'il ne faut pas faire. J'aimerais vous parler d'un sujet qui préoccupe, pense, tous les hommes. Bien sûr, les hommes et les femmes, hein. À la fois ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. C'est un sujet universel, car il touche la question qui nous préoccupe tous. Qu'est-ce que je fais dans ce monde ? Alors, elle répond un peu indirectement à cette question, car aujourd'hui, les personnes qui ne croient pas en Jésus ni en Dieu considèrent qu'ils n'ont pas assez de preuves pour cela, ce qu'on appelle l'agnosticisme, pas avoir assez de preuves. Et pour en effet avoir assez pour eux, il faudrait que Dieu se mette à leur parler directement dans leur chambre, qu'ils descendent sur leur lit et qu'ils disent « Coucou, c'est moi ». Puis peut-être que là, ils croiraient. Fin du moins, c'est ce qu'ils nous disent. Aujourd'hui, pour eux, Dieu ne parle plus. Dieu ne répond plus à leurs questions, à leurs appels. Qu'en pensez-vous ? Car moi, je crois aussi que parfois, Dieu ne répond plus. Je vous invite à suivre une histoire avec moi et à découvrir pourquoi Dieu ne répond plus. Je vous invite à lire 1 Samuel 28, 3 à 25. 1 Samuel 28. À 25. S'il y a quelqu'un qui veut m'épargner la lecture, Pierre, tu veux lire, s'il te plaît ? Tu peux venir. Merci.
On va épargner la voix de Samuel parce qu'on a envie qu'il termine quand même aujourd'hui. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ce qui évoque les morts et ce qui prédisent l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'urine, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, en Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, voici tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ce qui évoque les morts et ce qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter ? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül !» Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu ?» La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il ?» Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül prit, comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, « Voici ta servante a écouté ta voix, j'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir de la force pour te remettre en route. » Mais il refusa et dit, « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras. Elle se hâta de le tuer, et elle prit de la farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même.
Bien. Texte très facile en plus. Mais fort intéressant. On verra que cette fois-ci, on verra Saül. La fois prochaine, on verra David et sa réaction. Alors, rapide point pour les personnes qui n'étaient pas au groupe de jeunes, puisque nous avons parcouru rapidement tout un Samuel. Alors, je ne vais pas dire que nous sommes des experts d'un Samuel, mais presque. Rapidement, pour comprendre, les juges sont juste avant la période de Samuel et sont l'histoire d'un peuple d'Israël qui faisait ce qui lui semblait bon, avec tout ce que ça pouvait comporter, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de problèmes en Israël, et l'Éternel ne parlait pas beaucoup en ces temps-là aux personnes religieuses, notamment à Élie, et Élie qui était le sacrificateur de l'époque. À ce moment-là, il y a la naissance de Samuel, qui est le dernier juge et le premier prophète, qui va vraiment avoir un ministère prophétique et de porte-parole des paroles de Dieu au peuple. Puis à un moment donné, le peuple, en 1 Samuel 8, rejette la théocratie, c'est-à-dire le royaume qui était dirigé par Dieu. Voilà. En fait, il rejette Dieu, et Dieu par le fait qu'en fait Dieu parlait au travers de Samuel et annonçait ce qui allait se passer vis-à-vis des guerres, etc. Et il rejette, le peuple rejette Samuel, et il dit qu'ils veulent un roi comme les autres. Et alors après, il y a le sacre du roi Saül, c'est Dieu qui oint le roi Saül. Et alors le démarrage est assez bon, mais on voit qu'en 1 Samuel 13, il commence à prendre un peu les choses en main, et bien sûr sans l'aide de Dieu. Après, on voit au chapitre 15 que ben là, il désobéit clairement à l'Éternel, et au lieu de dévoiler interdit le peuple d'Amalek, ce qu'il fait, c'est que bon, il dévoue pas tout par interdit, c'est-à-dire qu'il tue pas tout le monde, mais au contraire, il garde les plus belles bêtes et il dit, je vais les offrir à l'Éternel. Et là, l'Éternel a une parole par l'intermédiaire de Samuel où il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Donc ça sera un peu la clé de la chute de Saül. Après, on voit qu'il y a le sacre du roi David, et on voit que David, eh bien, il commence son ministère par une belle victoire devant les Philistins, et ça provoque un peu l'inquiétude de Saül, parce que vous vous rappelez tous le chant des femmes qui disent Saül en a vaincu des mille et David des 10 000. Donc on voit que David, il est un roi, et pourtant il commence son périple bien difficilement, puisqu'il est poursuivi par Saül et il est obligé de fuir devant lui qui désire le tuer. Et même à la fin, il en a un peu marre de courir, et donc il se réfugie chez les Philistins. Voilà. Donc voilà un peu le contexte, et nous sommes à la fin. Et Saül se retrouve, je vous invite à lire, dans la fin de sa vie, hein, ça c'est clair. Entre-temps, Samuel était mort, verset 3, et tout Israël avait pris le deuil à cause de lui. On l'avait enterré à Rama, dans sa ville. D'autre part, Saül avait fait disparaître du pays tous ceux qui invoquaient les morts et ceux qui pratiquaient la divination. Versets 4 et 5. Les Philistins regroupèrent leurs troupes et établirent leur camp à Sunem. Samuel mobilisa tout Israël et dressa son camp à Gilboa. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut grande peur et son cœur fut saisi d'angoisse. Samuel vient de mourir. Et donc, les Philistins sont en train de se rassembler pour combattre le peuple d'Israël. Quand Saül voit cela, il a les chocottes graves. Je ne sais pas si vous auriez été dans la même situation que lui, mais il a la frousse. Il voit que le peuple des Philistins est en train de se rassembler, qu'il est nombreux. Et tout cela, il s'en rend compte à la vision qu'il a de l'armée ennemie. Saül ne place depuis bien longtemps plus sa confiance en Dieu, mais en lui. C'est d'ailleurs pour cela que les Philistins et la troupe des Philistins lui emportent une grande crainte. La vue chez Saül provoque la peur, qui elle-même produit l'angoisse, celle qui est en vous, dans votre corps, que l'on ne voit pas à la première vue, mais qui vous ronge de l'intérieur. Qui aujourd'hui, dans notre société, n'est pas rongé un peu par l'angoisse? La société ne nous présage rien de bon, ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Le chômage augmente, on n'est pas en Espagne, mais la crise est quand même bien présente, malgré le fait qu'on nous dise qu'elle a disparu. On s'endette toujours plus sur une durée plus longue. On ne sait pas ce que nos vieux jours nous réservent, avec toutes les maladies. Dans un contexte où la retraite et son financement ne semblent plus possibles, nous sommes obligés de nous inquiéter pour notre avenir. Du moins, c'est que la société nous montre et ce que nous voyons. À la différence de Saül, nous ne sommes pas en train de voir des Philistins lancer sur nous une grande attaque, mais nous voyons des centaines de sujets qui peuvent nous inquiéter. À tout âge, l'inquiétude, l'angoisse est présente. Pour un jeune ou une jeune de 15 à 20 ans, il ne sait souvent pas ce qu'il va faire et son inquiétude est de trouver un job afin qu'il puisse s'intégrer dans le milieu du travail. Il ou elle ne veut pas se retrouver seul et elle espère trouver l'âme sœur, quitte à renoncer à tout pour obtenir l'amour, avec un grand A. Pour moi, je vous avoue que j'avais peur de ne jamais me marier, car j'étais très timide avec les filles. On ne dirait pas a priori, pourtant c'est une réelle angoisse pour moi en tant que jeune. Même si je ne le montrais à personne, cela touchait trop mon orgueil, bien sûr. Quand nous avons terminé nos années scolaires, nous sommes inquiets de trouver un travail qui nous plaît, de trouver un travail, quand on voit que la durée sans pouvoir obtenir un travail est toujours plus longue. Quand nous sommes en activité, nous sommes inquiets pour nos enfants et pour notre retraite. En bref, nous sommes constamment, toujours inquiet. Même si Jésus nous a dit que nous n'avions pas. Nous connaissons donc très bien la situation par laquelle Saül est en train de passer. Ce n'est pas une situation qui nous est inconnue. Au contraire, si nous sommes honnêtes, au fond de nous-mêmes, c'est souvent notre principal problème avec lequel nous luttons. Nous savons que 80% des inquiétudes ne servent à rien, pourtant, cela ne nous empêche pas de nous inquiéter. Et ce type d'argument ne nous pousse pas à changer, au contraire. Pourtant, à l'inquiétude, quelle est la solution de Saül ? Verset 6. Il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Intéressant. Saül prend, semble-t-il, une bonne initiative, puisqu'il essaye de rentrer en contact avec Dieu. Grosso modo, aujourd'hui, pour nous, on pourrait dire que devant une situation, nous demandons à Dieu de l'aide devant une difficulté. Saül a tout essayé. Il a essayé les rêves, l'Urim, qui était en fait un outil entre les mains du souverain sacrificateur pour consulter l'Éternel, les prophètes qui étaient les porte-parole de Dieu, et notamment comme Samuel, qu'il avait été auprès de Saül. Saül cherche par tous les moyens pour entrer en contact avec Dieu. Pourtant, Dieu ne répond pas. Dans cette situation, Saül essaye par tous les moyens extérieurs à lui-même de consulter Dieu. Nous n'avons pas de mention d'une invocation personnelle, de repentance, mais d'une recherche d'un truc qui pourrait lui apporter la réponse de l'Éternel. Saül croit que la réponse de l'Éternel viendra d'une attitude stéréotypée et cela sera suffisant. Et en ce sens, aucune prière type aujourd'hui ne nous assurera la réponse de l'Éternel. Aucune religiosité ne nous permettra d'obtenir la réponse de l'Éternel quand nous sommes inquiets. Dieu attend autre chose. Et oui, Dieu parfois ne répond pas ou ne répond plus à nos invocations superstitieuses. Lisons la suite. Alors il ordonna, verset 7, à ses fonctionnaires, « Recherchez-moi une femme capable d'interroger les morts afin que je puisse aller chez elle pour la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Il en reste encore à Endor une femme qui interroge les morts. » Saül se déguisa en endossant d'autres vêtements, puis se mit en route avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme et Saül lui dit, « Je désire que tu me prédises l'avenir en faisant apparaître l'esprit d'un mort. » Celui que je désignerai. La femme lui répondit, « Tu sais bien que Saül a fait disparaître du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui pratiquent la divination. Pourquoi donc me tends-tu un piège? Est-ce que tu veux ma mort ?» Saül prêta serment par l'Éternel. « Aussi vrai que l'Éternel vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cette affaire. » Devant cette situation, Saül ne peut rester seul et laisser en proie à son angoisse. C'est pour cela qu'il commet ce que lui-même avait banni, ce que Dieu avait interdit, car cela était abominable à ses yeux. Saül ne cherche pas tellement l'Éternel, mais plutôt la réponse à son problème, c'est-à-dire à son inquiétude. En effet, pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à la royauté, il a quasiment exterminé tous les prêtres qui étaient au service du temple. Saül n'a aucun scrupule à rechercher ce qui va se passer dans une force occulte. Il a pris l'Éternel pour un distributeur qui répond à ses prières quand il en a besoin. Il souhaite avoir une réponse non pas de Dieu, mais de quelqu'un d'autre. Et nous allons voir de qui. Quand nous sommes angoissés par rapport à l'avenir, il y a plusieurs options. La France, dont nous faisons partie, a plusieurs options. Les Français ont plusieurs options. Et nombre d'entre eux vont voir les voyants, les voyantes. Selon certaines statistiques plus ou moins officielles, je n'ai pas trop trouvé, mais j'ai eu quelques infos, le montant perçu par cette activité s'élèverait à des milliards d'euros par an. Cela montre que les Français sont très inquiets. Et pour pallier à ce problème, ils espèrent que quelqu'un va les aider, va leur montrer l'avenir. Nous n'avons rien à envier à Saül. Toutefois, la suite est intéressante. Verset 11. À 14. Alors la femme lui demanda, « Qui dois-je faire revenir pour toi ? Fais-moi revenir Samuel, dit-il. » Quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, puis s'adressant à Saül, elle dit, « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül. » « N'aie pas peur, lui dit le roi, dis-moi plutôt ce que tu as vu. Je vois un être surnaturel qui monte des profondeurs de la terre, lui répondit-elle. « Quel est son aspect ? Lui demande Saül. » C'est un vieillard qui revient, drapé dans un manteau. Alors Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina la face contre terre et se prosterna. La femme est sans doute surprise par le pouvoir qui vient de lui apparaître. Car en faisant revenir Samuel, elle se rend compte que la personne qui est en face d'elle est Saül, rien d'autre que le roi qui avait interdit justement cette pratique. Elle comprend alors qu'elle va mourir. Elle s'insurge contre Saül qui l'a trompée. On ne sait pas si la vision de Samuel qui montre la femme d'identité de Saül, toutefois ça la remuait fortement. Et elle arrive à voir que la personne qui est en face d'elle, déguisée, est Saül. Saül comprend que la femme a vu quelqu'un d'important. Il insiste pour connaître l'identité et pour savoir s'il reconnaît la personne que la femme a vue. Saül reconnaît Samuel au manteau. Le manteau que Saül a essayé d'arracher à Samuel pour que celui-ci le bénisse à la suite de sa désobéissance lorsqu'il n'a pas dévoué par interdit Amalek. Pourquoi troubles-tu mon repos, lui dit Samuel. Pourquoi m'as-tu fait revenir? Je suis dans une grande détresse, lui dit Saül. Les Philistins m'ont déclaré la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par les rêves. Alors je t'ai fait appeler pour que tu m'indiques ce que je dois faire. Et on pourrait dire, comme tu m'as indiqué par le passé ce que je devais faire. C'est pas marqué. Mais Saül s'est toujours accroché à Samuel. Nous sommes très étonnés par ce texte car un homme ne peut théoriquement revenir à la vie et parler au travers d'un esprit. Beaucoup d'exégètes sont circonspects devant ce texte. Toutefois, la réalité, c'est que Samuel parle. Savoir comment, mais il parle. Par quel intermédiaire? Samuel pose une question à Saül et lui demande pourquoi il importune. Saül décrit alors son inquiétude et dit que Dieu s'est détourné de lui et ne lui répond plus. Et c'est pour cela qu'il l'a fait appeler. Pourquoi donc me consultes-tu, reprit Samuel, si l'Éternel s'est détourné de toi et s'il t'est devenu hostile? Oui, l'Éternel exécute ce qu'il t'a déclaré par mon intermédiaire. Verset 17. Il t'arrache la royauté et l'a donnée à l'un de tes proches, David. Parce que tu n'as pas obéi à ses ordres et que tu n'as pas exécuté le jugement qu'il avait décidé dans sa colère contre les Amalécites. Voilà pourquoi l'Éternel agit ainsi envers toi aujourd'hui. Bien plus, avec toi l'Éternel livrera aussi Israël au pouvoir des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Oui, c'est bien toute l'armée d'Israël que le Seigneur livre au pouvoir des Philistins. Saül cherche par tous les moyens à savoir ce qu'il va arriver, même si c'est par tous les moyens. Or, et c'est vraiment bizarre, l'Éternel révèle bien, par l'intermédiaire de Samuel, ce qui va se passer à Saül. Mais cette fois-ci, c'est pour sa déchéance. L'Éternel ne veut surtout pas que l'on invoque les morts pour connaître sa volonté. Toutefois, dans cette histoire, il veut montrer à Saül sa fin et pourquoi cela lui arrive. L'Éternel répète à Saül la sentence qu'il lui avait déjà déclarée au chapitre 15 et au verset 16 à 23. Je vous la lis. Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'annoncer ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « N'est-ce pas lorsque tu étais petit à tes propres yeux que tu es devenu le chef des tribus d'Israël et que le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois roi sur Israël ? Le Seigneur t'avait envoyé en disant, « Va et frappe d'anathème ces pécheurs d'Amalécite. Tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté le Seigneur ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui déplaisait au Seigneur ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté le Seigneur et j'ai suivi le chemin sur lequel le Seigneur m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai frappé Amalek d'anathème. Mais le peuple a pris sur le butin du petit bétail et du gros bétail comme prémisse de l'anathème afin de les sacrifier au Seigneur, ton Dieu, au Gilgal. » Samuel dit, « Le Seigneur prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur ? Écoutez vaut mieux que les sacrifices. Prêtez attention vaut mieux que la graisse des dévots. Car la rébellion vaut le péché de divination et la résistance vaut le recours illicite. Au teraphin, puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, ils te rejettent, toi aussi. Tu ne seras plus roi. Derrière la non-réponse de l'Éternel, il se cache quelque chose. Si l'Éternel ne répond pas à Saül, ne répond plus à Saül, c'est que l'Éternel a déjà posé le problème à Saül. Et Saül n'a pas fait le chemin sur le point que l'Éternel lui avait indiqué. L'absence de réponse de l'Éternel était la marque d'un problème dans la vie de Saül. Même si nous ne pouvons généraliser à outrance cette situation, ce que je relève, c'est que parfois, et dans notre situation bien précise, l'Éternel nous parle clairement. Parfois, et nous ne l'écoutons pas. Un train peut en cacher un autre. Vous voyez toute cette pancarte quand nous traversons une voie ferrée? On pourrait dire que c'est la même chose avec Dieu. Si nous ne nous tenons pas compte des paroles que Dieu nous adresse, nous ne devrions pas nous étonner qu'il finisse par ne plus être disposé à nous communiquer ses instructions. De manière concrète, à force de dépasser les limitations comme moi, j'ai pu le faire, vous finissez par vous habituer à être en infraction. À force de vous habituer à craquer tel ou tel logiciel ou à télécharger tel ou tel film, alors que vous savez que c'est tout simplement du vol, cela ne viendrait pas de voler dans les supermarchés. Alors pourquoi le faites-vous sur Internet? Pourquoi le faisons-nous sur Internet? À force d'habitude, nous avons oublié la première voix que Dieu nous avait adressée. Et nous sommes étonnés parce que nous sommes livrés à nos mauvaises habitudes. Dieu ne peut pas nous forcer à l'écouter et concrètement à mettre en pratique ce qu'il nous commande. Tout simplement, haïr le mal sous toutes ses formes. Dès que nous adoptons le mal, Dieu nous le montre. Mais si nous persévérons, alors attention, la fin est bien triste pour Saül. Saül voulait une réponse à son inquiétude. Elle se trouve multipliée par 10, puisque Dieu lui annonce sa mort. Et oui, les faits sont là. Dieu parfois ne répond plus. Non qu'il ne nous ait jamais répondu sur le sujet que nous lui demandons. Car en réalité, il nous a souvent déjà répondu, une fois pour toutes, au problème de notre existence. Et cela, il a fait lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a par cet acte montré un amour immense pour tous les hommes. Maintenant, parfois, il ne répond plus parce qu'il en a marre de notre attitude. Marre d'une attitude qui ne change pas, mais qui s'obstine. Il ne supporte pas la fausse religiosité. C'est exactement le problème de Saül. Si nous ne tenons pas compte des paroles que Dieu nous adresse, nous ne devrions pas nous étonner qu'il finisse par ne plus être disposé à nous écouter, à écouter et à nous dispenser ses instructions. Saül faisait ce qui lui semblait bon, mais ne faisait pas ce que Dieu lui demandait. Puis après cela, il s'est étonné que Dieu ne lui adresse plus la parole. De manière délibérée, il montrait à tous son faible intérêt pour Dieu. Pour Dieu, celui qui pratique ses commandements demeure dans son amour. Par conséquent, Dieu nous a déjà parlé, mais cela a peut-être trop de conséquences pour notre vie. Peut-être que nous nous cachons derrière l'idée que Dieu devrait nous parler pour que nous puissions croire en lui. Or, le problème n'est pas chez Dieu, mais chez nous. Aujourd'hui, il vous demande à vous qui n'avez pas encore mis leur confiance en lui, d'arrêter de croire que Dieu ne nous a pas parlé, mais au contraire qu'il l'a fait, mais que vous n'avez pas encore saisi ce qu'il voulait vous dire. Et pour ceux qui sont déjà chrétiens, peut-être qu'aujourd'hui vous souffrez d'un mal qui vous ronge. Je ne connais pas vos vies. Pourtant, il vous semble que Dieu est lointain et ne répond pas à vos prières. Sachez que Dieu ne change pas et qu'il vous aime toujours d'un amour inconditionnel. Il désire toujours être proche de vous. Toutefois, le problème n'est peut-être pas dans sa capacité à nous parler, à nous répondre, mais plutôt dans notre capacité à mettre en pratique ce qu'il nous a déjà dit de faire. Quand Dieu ne répond plus, c'est peut-être que nous avons fait la sourde oreille à ses paroles. Je ne souhaite pas être généralisateur, je souhaitais juste vous montrer ce que Saül a fait. Et nous verrons aussi ce que David a fait en face de l'inquiétude la fois prochaine. Mais comme Saül, peut-être Dieu nous a adressé déjà la parole
et nous n'avons pas obéi. Dieu n'est peut-être pas content. Pourtant, il le sait. Nous ne pouvons vivre sans une dépendance complète avec lui. Par conséquent, il est patient. Il est patient. À nous de revenir à lui, de nous fortifier réellement à lui, comme David le fera, au chapitre 29.